ce soir sur Campus Grenoble
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Campus Grenoble 90.8. Comme l'a annoncé ce petit jingle, vous êtes dans l'apérophonie. Ce soir, je suis accompagnée par trois étudiants du master communication et culture scientifique et technique de l'université Grenoble-Alpes. Quentin, Aphélie et Ayman, merci beaucoup de m'avoir rejoint.
Bonsoir et
bonsoir.
Merci.
Bonsoir.
Merci. Alors ce soir, c'est l'épisode numéro 2. Sur le loup en Belledonne, puisqu'il y en a déjà eu qui a eu lieu début décembre. J'étais allée avec vous sur le terrain en Belledonne et vous aviez rencontré pendant une semaine des intervenants, des éleveurs, l'AMSA, des naturalistes qui vous ont parlé du loup, puisqu'il y a une controverse autour du loup, c'est-à-dire qu'il y a des positions pour et des positions contre. Et on avait dit finalement qu'on ne pouvait pas vraiment prendre position, mais qu'il fallait trouver un équilibre sur les territoires. Alors vous, vous êtes étudiant en communication et culture scientifique et technique. Mais alors d'abord, c'est quoi cette formation ?
Alors, qui se lance ? C'est une formation qui est assez difficile à définir parce qu'elle est, elle est très vaste, en fait. Le but, c'est de communiquer autour des sciences et surtout de pouvoir les communiquer en société, en fait. Donc, ça peut mener vers des professions extrêmement variées. Le journalisme scientifique, tout ce qui est vulgarisation, on peut penser à Fred et Jamy, par exemple, en premier. Et puis, on peut aussi devenir chargé de communication auprès d'un laboratoire ou travailler dans un musée. Et en fait, c'est ce à quoi prépare notre master, c'est à ce type de métier.
D'accord. On parlait de médiation scientifique. Alors, la médiation scientifique, il n'y a pas vraiment de définition précise, il y a même des définitions finalement controversées. On parlait de différents publics vers lesquels vous vous tournez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être avec vos propres mots à vous pour ce que c'est finalement la médiation scientifique pour vous ?
Ouais, du coup, la médiation, je pense, c'est vraiment créer du contenu, des dispositifs pour expliquer un sujet de la manière la plus large possible. Du coup, scientifique dans notre cas, donc vraiment, on veut parler de science, mais de toutes les sciences aussi. Donc, il n'y a pas que les sciences dures, donc la physique, la chimie. Il y a aussi tout ce que, du coup, les sciences sociales. Donc voilà, par exemple, là, notre controverse autour du loup. Donc, on essaie vraiment de comment trouver la meilleure manière, que ce soit voilà, par des musées, par des affiches, par la discussion, comment parler d'un sujet et le faire comprendre au plus grand public, du coup. Après, il faut savoir que quand on crée ces dispositifs, on essaye de vraiment, enfin, comment dire, spécifier à un certain public en particulier, et du coup, on parle avec un certain langage. Et c'est là que la médiation vraiment joue un point fort, quoi.
Est-ce qu'on peut donner un exemple des publics visés justement par cette médiation scientifique ?
Bah, c'est très large. Ça va des enfants à un adulte. Ça dépend vraiment dans quel contexte on va se trouver, que ce soit justement à la radio. Donc, on sait qu'on va plutôt être vers une catégorie de personnes, des adultes. Si on est dans des musées, on sait qu'on va plutôt avoir un public jeune. Donc vraiment, on essaie de jouer par rapport à ça, par exemple au journalisme, donc dans les magazines, les éditeurs, ils ont vraiment des publics visés, quoi.
Je pense que ça dépend aussi en fait du sujet que sur lequel qu'on veut traiter.
Qu'on touche, donc, bien sûr.
Derrière l'idée de médiation, il y a aussi cette idée de rendre acteur le public, pas simplement lui apporter un savoir, lui inculquer un savoir scientifique qui viendrait d'en haut. D'ailleurs, c'est vraiment faire en sorte qu'il se l'approprie, qu'il le comprenne. C'est en ça que ça peut se différencier, par exemple, de la vulgarisation, où là, on a vraiment l'idée qu'on va expliquer le savoir. C'est super intéressant, mais dans l'idée de médiation, il y a vraiment cette notion de faire en sorte que le public se l'approprie avec ses moyens à lui aussi.
Pourquoi est-ce que pour vous, c'est important, justement, que le tout public, le grand public, comme on l'appelle en culture et en culture scientifique, ait accès à la science ?
C'est une grande question. C'est aussi, enfin, on est dans une société où on entend de plus en plus parler de science. On est dans une société technologique. On a beaucoup de choses qui ont un rapport avec les sciences. C'est une forme de connaissance qui est extrêmement valorisée par notre société. Et c'est important, c'est un geste citoyen aussi de comprendre les mécaniques scientifiques qu'il y a derrière, derrière un phénomène, derrière des choses, pour pouvoir comprendre un grand nombre d'enjeux. Par exemple, le réchauffement climatique, c'est quelque chose dont on entend énormément parler. Et saisir les arguments scientifiques, les pour, les contre, c'est une vraie question citoyenne. C'est hyper important que les citoyens se l'approprient. Et les citoyens, c'est extrêmement vaste. Il y a les enfants qui sont les futurs citoyens. Il y a les adultes et puis tout un tas de catégories, entre guillemets, de gens.
J'ai l'impression que, justement, tu as dit un mot très important, citoyen. Ça peut être aussi une médiation qui fait parler l'autodéfense intellectuelle, finalement. Il y a beaucoup de... on parle de la controverse, mais par exemple, Trump a dit il y a environ un an que, finalement, il avait très chaud et que le réchauffement climatique, c'était un truc de scientifique pour faire peur aux gens. Il y a quelque chose qui tient, à mon avis aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, de l'autodéfense intellectuelle et finalement de se faire sa propre idée dans un monde dans lequel il y a quand même une certaine défiance envers la science.
Ouais, je pense que c'est vraiment pousser simplement... Il y a ce qu'on apprend à l'école, du coup, ouais, à avoir une ouverture d'esprit, avoir un esprit critique. Et je pense que la médiation vient vraiment pousser ça et l'amener plus loin et hors contexte de ce qu'on va voir à l'école. C'est vraiment dans les vies de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut apprendre
Je dirais, c'est en fait donner les clés à toutes les personnes de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Voilà, on parle de réchauffement climatique, ça peut être sur des sujets hyper variés, qui puissent comprendre ce dont les scientifiques parlent et puis se positionner en fait eux-mêmes et se sentir pas juste des pions comme ça, mais être acteurs et pouvoir réfléchir à ces questions.
On a beaucoup travaillé par exemple sur le fake news, toutes ces choses-là l'année dernière. Du coup, voilà, comment est-ce que...
Il y a aussi un mot qui a été dit par l'un d'entre vous, c'est technologie, technologie numérique. Quelle est la place du numérique dans cette médiation scientifique ?
Alors ça, c'est des positions de chacun. Je sais qu'il y en a beaucoup, même dans notre classe, du coup, qui refusent d'utiliser ce qui est du numérique et montrer qu'on peut apprendre des choses aujourd'hui encore avec des livres, avec de l'écriture, avec du son, et pas, enfin, même si c'est numérique, sans forcément avoir trop d'écran autour de nous. Essayer de se séparer aussi de ça.
C'est un vrai sujet à débat, rien que dans notre promotion. Quelle est la place du numérique, quelle place on lui accorde. Et oui, c'est une question super intéressante. D'un autre côté, on est aussi dans une société qui survalorise même le numérique presque. Et donc, ça peut être super intéressant, ça peut être un outil passionnant, hyper efficace, mais je ne pense pas qu'on ait des positions arrêtées là-dessus. On est, entre guillemets, juste en master. Et on a des pistes de réflexion, pas forcément des idées ultra arrêtées sur les choses. Donc, le numérique, oui.
Pour la pédagogie, peut-être, et pour le côté ludique.
Oui, carrément, ouais. Oui, bien sûr. Enfin, il y a aussi, ça faisait partie aussi de nos cours, dans les musées, on voit aujourd'hui de plus en plus d'écrans, et en fait, des fois, par des enquêtes, on se rend compte que les gens, en fait, souvent, ils s'en foutent un peu de l'écran, et ils préfèrent regarder, en fait, les vitrines. Après, ça dépend comment vraiment c'est utilisé, ça dépend vraiment de l'endroit où... Comment est-ce qu'on l'utilise, en fait ? Tout dispositif peut être très intéressant, tout dépend de la manière dont on l'exploite, quoi. Donc le numérique en fait partie.
Alors le scientifique n'est pas quelqu'un qui est cantonné à son laboratoire. En septembre dernier, vous avez participé à une enquête de terrain dans la vallée des Huiles, en Beldon, sur la controverse du loup. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette expérience d'une semaine ?
Alors c'était une semaine donc en Beldon, où on était... tous là-bas, toute la promo, et où chaque jour on rencontrait en fait différents acteurs de cette controverse. Donc on a rencontré des éleveurs, des bergers, des personnes de la MSA, qu'est-ce qu'il y en a eu aussi ?
Qui est la mutuelle agricole.
Oui.
On a eu un photographe naturaliste,
oui. On a eu un journaliste,
un maire.
Des journalistes, un maire. Ouais, on a vraiment été immergés en fait, et essayé de rencontrer le plus d'acteurs possible avec qui ça touchait directement ou indirectement en fait les gens par rapport au loup. Et vraiment. Faire une enquête, en fait. La plupart de nous, on vient tous de sciences dures, physique, chimie, tout ça, et avons très peu fait de sciences sociales. Et du coup, comprendre, en fait, comment sont faites les sciences sociales, comment sont étudiées les sciences sociales, était vraiment très important, en fait. Et du coup, pouvoir aller sur le terrain, rencontrer différentes personnes, nous a vraiment, vraiment éclairé sur comment sont faites les sciences sociales, en fait. Et du coup, quels problèmes, enfin, quelles sont les problématiques, comment est-ce que ça touche les gens, parce qu'en fait, on se rend compte que étudier des gens, bah, c'est pas du tout la même chose qu'étudier de la chimie, quoi.
Le fait d'avoir des échanges avec les personnes vraiment directement, ça a été quelque chose de très instructif, de un peu nouveau pour nous, enfin voilà, comprendre au travers de témoignages, en fait.
Quelle a été la méthode que vous avez utilisée pour comprendre ces gens, parce qu'il y a eu des échanges, mais j'imagine qu'il y a aussi une méthode scientifique finalement qu'on doit s'approprier. Quand on va sur le terrain, parce que on n'est pas là pour échanger des recettes de gâteaux, on n'est pas là pour échanger sur, je sais pas moi, des problématiques sociales du genre on n'a pas de transport, on n'a pas d'école. Comment est-ce qu'on fait pour recentrer une discussion sur une problématique dont on n'est pas forcément imprégné, même si vous avez eu quelques cours avant sur le loup et la controverse, mais finalement, c'est quoi la méthode scientifique quand on n'est pas forcément scientifique dans le sens profond du terme ?
C'est toute la difficulté du sujet, et c'est d'ailleurs la difficulté des sciences humaines. On étudie l'humain, donc on étudie quelque chose d'extrêmement complexe et de pas forcément tout le temps rationnel. Et donc, une science qui se penche sur quelque chose qui peut être parfois irrationnel, ça peut déranger, ça peut perturber. Et donc, dans les sciences humaines, il y a une grande part aussi de subjectivité. Pas que, il y a une méthode qu'on applique. Cette méthode, ça va être l'enquête, ça va être quelles questions on pose. Ça va être aussi tout simplement rencontrer les gens et établir un rapport de confiance pour que les personnes soient sincères quand elles nous parlent et qu'il y ait un vrai échange et pas simplement des positions de façade. Parce que dans le cas du loup, si on reste dans des positions de façade, on va rester dans un pour et un contre. Les éleveurs vont se dire contre le loup, les défenseurs de l'environnement vont se dire pour le loup. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que non, ça dépasse complètement ça. Ça va beaucoup plus loin. Donc c'est la nécessité d'établir un rapport de confiance et je pense que ça fait entièrement partie du protocole de recherche. Ça peut faire hérisser les poils de physiciens ou de mathématiciens qui n'ont pas forcément l'habitude de ça, mais oui, faire attention à la subjectivité sans pour autant se laisser submerger par ses propres émotions et par une empathie trop forte. Je pense que c'est cet équilibre-là qui est essentiel quand on étudie l'humain.
Il y a toute une question de l'empirisme en fait, surtout, et du vécu des gens qui rentrent en compte en fait.
Donner importance à de l'importance ouais, au vécu, à l'expérience qu'ils ont, qui est légitime parce qu'elle existe en fait, ce qu'ils ressentent, on peut pas leur enlever. Et ça permet d'établir un rapport de confiance aussi. Et de partir sur des bases communes parce que le loup, dans le cas de tous les acteurs qu'on a rencontrés, il leur fait ressentir des choses. Et donc là, on a notre sujet d'étude, entre guillemets, c'est ça.
Le loup et le territoire. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. On a posé un peu le contexte avec ces étudiants du loup et de la controverse du loup en Belden. On va s'écouter Everything is OK de Fun Funeral, choisi par les programmateurs de bénévoles de Radio Campus Grenoble. Et on se retrouve juste après pour parler médiation autour du loup, puisque les étudiants ont planché sur des actions de médiation après leur semaine en Belden. A tout de suite. C'était Everything is OK de Fun Fun Funeral. C'est la playlist de l'Airplay, campusgrenoble.org, vous la retrouvez dessus. Et c'est une programmation bénévole à laquelle vous pouvez participer. Inscrivez-vous. Alors ce soir, et nous sommes toujours dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8, je suis avec trois étudiants, Aphélie, Quentin et Ayman. Vient de nous rejoindre Louise. Bonsoir Louise.
Bonsoir.
Donc des étudiants aux communications et cultures scientifiques et techniques de l'Université Grenoble-Alpes, nous parlons de la controverse du loup en Belden. Alors on a reposé un peu le contexte de ce que était la médiation scientifique et finalement de la semaine qu'ils ont passée à la table en Belden, dans la vallée des Huiles, pour rencontrer différents intervenants sur la controverse du loup, donc des naturalistes, des éleveurs qui se font attaquer par le loup régulièrement, mais aussi les pouvoirs publics comme le sont la MSA, donc la mutuelle agricole, ou encore les maires qui représentent les habitants. À la suite de ce travail d'une semaine, vous avez planché une semaine de plus, la semaine dernière en fait, ou la semaine d'avant.
La semaine d'avant.
Il y a deux semaines, vous avez planché pendant une semaine avec quatre anciens du master, donc, qui ont été les chefs de file pour quatre groupes. Et vous avez travaillé sur une médiation scientifique auprès de différents publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé?
Donc on s'est répartis en quatre équipes. On était chacun coaché par un ancien élève du master.
Une ancienne étudiante
du master. Et le but, c'était effectivement de mettre en place un projet de médiation réalisable autour de la question de la controverse en fait, du loup, du pastoralisme. Et c'est parti de là. Et ensuite, donc, on a commencé par faire un état des lieux de ce qu'on savait, de ce qu'on pensait, de nos sensibilités propres. Aussi parce que les deuxièmes années, on avait eu une expérience sur place qu'on n'avait pas eu les premières années. Donc le but, c'était aussi de faire un partage d'expérience et de se nourrir de... leur apparente naïveté par rapport au sujet et donc leurs nouvelles idées. Et c'était super intéressant d'avoir ce nouveau regard, ce regard frais qu'on n'avait plus tellement en fait sur la question. Nous, ça faisait deux mois qu'on était à fond obnubilés par ça et on mangeait le loup, on dormait le loup, on vivait le loup.
Vous discutiez le loup, oui, j'ai bien vu, même moi, en n'étant pas passé beaucoup de temps, en réfléchissant au premier épisode de cette médiation avec le loup, ça m'a beaucoup pris la tête de savoir comment est-ce qu'on allait en parler au public.
C'était une expérience qui nous avait vraiment marqué, du coup ça nous tenait vraiment à cœur, donc cette semaine ça a été intense, vraiment on y tenait à ces dispositifs.
Il y a quatre formes qui ont été proposées et défendues devant un jury. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces quatre formes?
Ouais.
Alors, il y a une première forme, du coup, qui s'adressait plutôt à un public d'enfants, un public de primaire, plutôt niveau CM1, CM2. Et en fait, il s'agissait de replacer la controverse dans un contexte neutre, avec des acteurs qui n'avaient pas de posture vis-à-vis de cette question de la réintroduction du loup, de la réapparition du loup dans les Alpes, et d'utiliser ce public, du coup, à la fois pour apporter une nouvelle approche à l'environnement et aussi tamponner un petit peu la controverse qui pouvait avoir lieu à des niveaux plus élevés avec leurs parents, par exemple.
Utiliser finalement les enfants et leurs activités en classe pour pouvoir aussi sensibiliser
voilà,
les parents.
Pour pouvoir exporter la question en dehors de l'école, à la maison, auprès des parents.
Ce groupe a fait quelque chose d'assez malin puisqu'il a pris un animal, donc qui est le chouka, c'est ça ?
Alors oui, l'idée du coup c'était d'apporter un point de vue neutre en fait sur la situation dans les alpages. Et donc les enfants en fait se voyaient confier la gestion d'un pâturage fictif dans lequel il y avait des troupeaux, des loups, des bergers, des randonneurs, des chiens de bergers, des patous. Et la personne donc, qui leur présentait la situation, qui leur demandait de prendre des décisions vis-à-vis de ce pâturage, c'était un chouka. Donc un observateur, enfin plutôt un chouka à bec jaune, ne pas confondre avec le chouka des Tours, ou aussi appelé chouka des Alpes. Et ce narrateur en fait leur expliquait la situation d'un point de vue neutre pour les amener à prendre eux-mêmes leurs décisions en fonction de ce qui se passait en fait sur leur pâturage.
Par le biais de lettres où ils devaient prendre en fait des positions en ayant toute la vision du pâturage et de ce qui s'y passait. Alors, est-ce que ouais. Je vais mettre mes brebis à côté de l'arbre ou dans la forêt? Est-ce que voilà?
Oui, exactement. Il y avait une correspondance écrite en fait entre les enfants et ce chouka, mais aussi entre les enfants et les autres acteurs du pâturage, donc les moutons, le loup, le chien, le berger. Et l'idée du coup, c'était à la fois qu'on leur raconte le pâturage, mais aussi qu'ils puissent prendre des décisions qui auront un impact sur ce pâturage. Et donc, ils auraient une carte qu'ils pourraient afficher au mur de leur classe, une carte interactive qu'ils pourraient modifier en fonction des décisions qu'ils prennent et du déplacement des acteurs sur le terrain. Donc c'était un moyen aussi de visualiser un peu ce qui se passait et les conséquences des décisions qu'ils prendraient.
On avait aussi un projet, il arrive, avec un projet d'exposition sur le loup, mais aussi sur les différents acteurs justement de cette controverse.
Ouais, alors non, ce qu'on avait imaginé en fait, c'était vraiment dans une pièce en fait, on avait réussi à découper donc la grande pièce en plusieurs petites pièces. Et on voulait vraiment faire un truc immersif où on pouvait amener en fait, faire voyager les personnes qui pouvaient rentrer dans ce dispositif et se mettre à la place de chaque acteur. Donc on rentrait par exemple dans la première pièce où c'était un naturaliste photographe. Donc on avait tous les objets du naturaliste et on était vraiment plongé dans son milieu. Puis on passait d'une pièce à une autre et on découvrait un autre acteur qui nous racontait en fait par tout ce qui était vraiment de l'interactif donc et puis de l'immersif donc tout ce qui était avec les sons, les odeurs, tout ce qui était de la vue en fait, pouvoir vraiment plonger la personne comme si elle y était en fait dans ses pâturages, dans la forêt, dans la cabane des bergers et vraiment du coup donner une pluralité des visions en fait que nous on a pu expérimenter et avoir pendant la semaine du loup. Voilà.
C'était super, super chouette. Finalement, c'était un public plus large que les enfants du premier ouais. Projet. On avait aussi un projet de pédagogie sur randonnée, de randonnée éclairée.
C'était un projet qui a été porté donc, qui s'adressait spécifiquement aux randonneurs qui étaient dans le parc national des Écrins sur l'itinéraire, qui visait en fait, à montrer... réellement les lieux de la controverse, montrer l'alpage et être in situ. En fait, c'était un projet qui était vraiment sur place pour montrer aux gens, aux randonneurs, où ils étaient et quels étaient les enjeux liés à ces territoires-là où ils randonnaient. Et le but était d'essayer de montrer la pluralité des points de vue, encore une fois. C'est d'ailleurs un point commun aux quatre projets qui ont été montrés, c'était de montrer la pluralité des points de vue, des expériences, des ressentis. Et le faire ressentir aux randonneurs sur ce chemin-là.
Le dispositif de médiation, c'était des panneaux avec à chaque fois un point de vue différent, avec des choses à toucher, à sentir, pour montrer justement quelle était la situation de l'alpage.
Il y avait deux types. Il y avait une visite qui était possible tout seul avec des panneaux, avec des choses à faire aussi. C'était un peu interactif. Par exemple, on pouvait entrer dans la cabane d'un louvetier et voir comment lui chassait le loup ou d'autres espèces d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'un louvetier ?
Le louvetier, justement, c'est un chasseur qui est habilité par l'État à tuer des nuisibles. Donc il tue des loups, c'est de là d'où vient son nom. Mais ça, c'est plutôt récent en fait. À l'origine, il tue aussi les renards, les sangliers ou des nuisibles qui sont présents en trop grand nombre. Et donc, il régule les populations en fait comme ça.
Parce qu'on rappelle que le loup est quand même une espèce protégée par la Convention de Berne, donc à l'État européen. Il y a même la présence du loup comme espèce protégée dans la Constitution, il me semble.
C'est ça. Et chaque année, il y a un quota de loups qui sont autorisés à être abattus en France. Et les seuls qui sont habilités à le faire sont les louvetiers, qui sont reconnus par l'État et donc qui sont les seuls à avoir cette autorisation de tuer cette espèce protégée.
Très bien. Et ensuite, on avait un dernier dispositif de médiation, beaucoup plus numérique cette fois.
Non, pas totalement numérique, parce qu'en fait, notre première partie, c'était un jeu de piste qui s'organisait dans la ville de Grenoble. Donc, comme pour les autres projets, c'était vraiment notre but, c'était de montrer la pluralité des acteurs, d'être assez immersif. Et donc, c'était dans notre jeu de piste plusieurs étapes où il fallait rencontrer différents comédiens qui jouaient des acteurs de cette controverse. Et on a voulu, pour approfondir plus la question, parce qu'un jeu de piste, c'est quand même... Enfin, il y a des informations qui sont limitées qu'on peut donner pour un jeu. Donc faire un jeu numérique où il y avait plus d'informations, qui apportait plus de connaissances pour quelqu'un qui voudrait approfondir la question. Donc là, numérique et avec cette fois-ci le joueur qui peut être acteur en fait des décisions, parce que chaque décision qui va prise vont influencer en fait la fin du jeu. Voilà, comme dans la réalité où même si on n'est pas forcément, on se sent pas forcément concerné par la controverse du loup en tant que consommateur, on est acteur de cette controverse.
Il y a plusieurs en fait, issues possibles, comme dans la vraie vie.
Voilà, c'est ça.
Finalement. Alors là, on parle de 4 projets fictifs dans le cadre de vos études. Est-ce que vous savez un peu ce qui va découler de ce travail ?
Il y a eu des prises de contact déjà. Donc Michael Chambru, qui est le responsable du master, a déjà pris contact avec des personnes qui sont intéressées, des acteurs de cette controverse qui sont intéressés pour mettre en place certains dispositifs. On a eu la chance d'avoir aussi le jour de la présentation, de la restitution de ces projets. On a eu c'était le président de la Fédération des Alpages de l'Isère qui est venu, qui a été très touché par tout le travail qu'on avait fait et qui s'est montré très intéressé pour pouvoir les réaliser en lien avec d'autres acteurs. Donc on espère qu'il y aura une suite d'ici 1 ou 2 ans. Qu'on ne mènera pas forcément nous, mais que d'autres étudiants du master et puis même d'autres acteurs pourront mener. Ça permettrait d'être pérenne et d'avoir travaillé en fait pour quelque chose et pas juste pour un exercice d'étudiant noté à la fin. Voilà, c'était pas le but pour nous et on s'est tellement investi là-dedans qu'on aimerait bien que ça se réalise. Et il y a des personnes qui sont intéressées.
Moi, j'ai été hyper impressionnée parce que vous avez produit, parce que j'enseigne aussi à l'université. Dans un cours de radio pour les masters, justement, pas dans votre master, mais dans un autre master qui s'appelle Diffusion de la culture. Et j'ai trouvé que c'était hyper abouti pour un travail d'une semaine, finalement. On voit qu'il y a de la réflexion derrière et qu'il y a un semestre à manger du loup. Mais c'était absolument incroyable. Quelle a été la prise de position des 4 coachs qui sont des anciens masters qui vous ont suivi sur cette semaine ?
Je pense qu'ils ont évité de prendre trop de décisions, mais ils ont vraiment été là en tant que eux-mêmes, en tant que médiateurs, en fait, là pour prendre un peu quand il fallait prendre des décisions, être là, on fait comme ça ou comme ça, mais il va falloir voter ou se mettre ensemble et essayer de pousser chaque truc à bout pour voir ce qui serait le mieux quoi dans chaque groupe. Ils ont vraiment été très efficaces. Ils nous ont aussi des fois mis des bâtons dans les roues. Oui. Ils nous ont quand même, tous les soirs, ils nous ont fait des petites surprises. Tous les soirs aussi, on passait devant eux. Et ils nous, pas forcément des critiques, mais vraiment, ils essayaient de
nous aider.
Ouais, nous aider pour avancer. Et du coup, par exemple, il fallait travailler en lien avec le musée de Grenoble ou les deux Alpes. Enfin, il y en avait 4.
Chaque soir, après chaque restitution, on avait des contraintes. Mmh. Donc, la première
surprise.
Soir.
Surprise.
Ouais, le premier soir, c'était, on avait un acteur. Qu'on devait intégrer dans notre dispositif. Et la deuxième contrainte, c'était de la rendre accessible à un public précis.
Ouais.
Je pense que leur position, c'était à la fois de nous laisser libres, de booster nos idées et puis aussi de nous faire gagner du temps. Parce qu'à chaque fois qu'ils sentaient qu'on s'enlisait un petit peu dans la discussion, qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, etc., ils étaient là pour trancher et nous permettre d'avancer et de passer à autre chose.
Est-ce qu'on peut retrouver ces projets quelque part ?
Il y a un carnet de recherche en ligne qui s'appelle croscus.hypothèse.org, si je ne me trompe pas, qui est tenu à jour pour justement montrer l'évolution de ces projets. Et ouais, on espère qu'il continuera à vivre et à montrer l'avenir de ces projets. Ce serait cool qu'il y en ait au moins un qui se réalise et qui soit utile.
Sur ce même site web, il y a vraiment toute, il y a même la semaine qu'on a passée pendant la semaine du loup. Il y a vraiment du coup un compte rendu de chaque jour. Il y a tout ce qui est où on est passé dans les médias, par exemple. Il y a eu un petit reportage de fait pour c'était quoi, c'était
TV8 Mont Blanc.
TV8 Mont Blanc, voilà. Donc on peut tout retrouver en fait sur là-dessus.
Super. Croscus.hypothèse.org. C'était votre dernière semaine de cours. Là, vous allez partir vers la vie active avant, enfin après avoir fait votre stage de fin d'études à partir de janvier. Je tenais à vous remercier d'avoir été là ce soir, parce que je crois que certains d'entre vous ont un partiel demain.
Il y a 8h30.
Je vais donc vous libérer. Ayman, Quentin, Aphélie et Louise, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et pour vous, très chers auditeurs de Radio Campus, vous pouvez retrouver cette apérophonie demain à 8h en rediffusion. Et demain soir, c'est Louis et Samuel qui vous parleront Titanic. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont prévu, mais il me semble que j'ai entendu ça dans les couloirs tout à l'heure. Soyez à l'écoute et au rendez-vous de Campus Grenoble 90.8. Bonne soirée et à bientôt.